Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse au tourisme intérieur au Niger, défis et perspectives. Dans un article publié dans le Sahel du 14 janvier 2013, le Niger devient de plus en plus un pays d'attraction touristique avec 63 000 visiteurs étrangers en 2006. Les activités touristiques généraient des revenus estimés à 32 milliards de francs CFA, équivalent à 1,7% du PIB, et des emplois estimés à plus de 8 700. Les infrastructures d'accueil sont au nombre de 87 hôtels toutes catégories confondues qui totalisent 2023 chambres. Une forte prise de conscience est en cours quant au rôle de la culture et du tourisme dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté, notamment à travers la conservation et la valorisation du patrimoine, l'art et l'artisanat. Avec nos invités, nous allons d'abord parler des défis du tourisme au Niger et les perspectives pour sa renaissance. Anafi Souleymane, ancien parlementaire nigérien, cadre supérieur du ministère du tourisme et de l'artisanat. Anafi Souleymane, bonsoir.
Bonsoir.
En ligne, nous avons Soumaïla Marsadou, directeur régional du tourisme de la région de Tillabéri. Soumaïla Marsadou, bonsoir.
Bonjour.
Nous avions également invité Mauli Dayak, promoteur de Temet événement, mais ce dernier n'a pas pu répondre présent à notre invitation. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Soumaïla Marsadou, que représente la région de Tillabéri sur le plan touristique au Niger?
La région de Tillabéri était avant la première destination touristique au Niger, avec des potentialités énormes, notamment le fleuve, le village d'Ayerou avec ses hippopotames et ses îles, le parc régional du W, les girafes de Kouré, les marchés hebdomadaires, comme celui de Balayara. Donc, vous le voyez, vraiment, c'est la région de Tillabéri était auparavant une très grande destination touristique.
Soumaïla Marsadou, des milliards de francs CFA sont investis dans le secteur du tourisme au Niger. Pourquoi ça ne marche pas, à votre avis?
Bon, pas de milliards investis. Les milliards investis, en fait, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui est, depuis le jeu de la francophonie, on a remarqué, en tout cas, l'essor du secteur particulièrement hôtelier au niveau de Niamey et de certaines régions. Il y a une panne actuellement au niveau du secteur à cause du problème sécuritaire. Vous avez vu par le passé, il y avait eu des enlèvements de touristes, tout ça, ça a beaucoup impacté le secteur. Vous savez, c'est un secteur très fragile. Dès qu'il y a des petits couacs, la presse véhicule partout des informations comme quoi, voilà ce qui se passe, il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir par là, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça a beaucoup impacté ça. Et vous voyez même au niveau de certains sites diplomatiques, la carte du Niger est colorée. Il y a des zones où il est formellement interdit de s'y rendre. Donc, c'est des choses qui entravent le développement du tourisme.
Soumaïla Marsadou, le tourisme fait rentrer des devises. Il emploie des artisans, des guides, chauffeurs, chameliers, auberges, hôtels et contribue au rayonnement de la zone. Aujourd'hui, que devient tout ce beau monde et ces infrastructures?
Oui, vous savez, le tourisme, c'est un secteur transversal qui touche plusieurs autres secteurs. L'artisanat, l'élevage, etc. C'est un secteur transversal. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, vous partez à Ayerou. Avant, il y avait même une association de guides touristiques. Cet cette association a disparu parce que le tourisme ne marche plus dans la zone d'Aïrou. Le parc du W est en train de subir le même sort actuellement. Il n'y a que Kouré qui s'en sort. Et vous partez dans certaines régions comme Agadez qui ne vivait pas le passé que du secteur du tourisme. Aujourd'hui, la région d'Agadez est impactée. C'est un secteur... En 2006, par exemple, les chiffres au niveau de la région d'Agadez tournaient autour de 8 milliards. Mais aujourd'hui, tout ceci est parti avec ce problème-là. Donc, il y a le chômage. Voilà, les guides touristiques sont au chômage. Ça a beaucoup impacté le secteur.
Soumaïla Marsadou, vous venez là d'évoquer la région d'Agadez qui jouit d'une grande notoriété sur le marché du tourisme international pour la qualité et la diversité de son potentiel culturel, préhistorique et touristique. Que devient toutes ces merveilles aujourd'hui?
Non, les merveilles sont là. Les sites, les produits sont là, disponibles. À Agadez, nous avons beaucoup de professionnels du secteur qui sont là, qui attendent. Les potentialités sont là. Nous attendons que tous nos efforts sont orientés. Nous sommes là, nous sommes là-dessus, avec la nouvelle politique du tourisme qui a été adoptée tout récemment. Nous pensons que d'ici peu, on va s'en sortir. C'est une période de difficulté, mais après la difficulté, c'est le bonheur, je l'espère.
Anafi Souleymane, quels sont les défis liés au tourisme au Niger?
Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur un sujet aussi important. Les défis liés au tourisme sont énormes. Tout à l'heure, mon collègue vous disait que la carte du Niger a été colorée de partout. Aujourd'hui, pratiquement, vous quittez Niamey à 50 km, vous entrez dans une zone interdite pour beaucoup de nationalités. Le premier défi que nous avons, c'est celui de l'information, la maîtrise de l'information. Le tourisme est une activité de service. Et l'information est importante pour le tourisme. Et tant qu'un pays ne maîtrise pas l'information qui circule sur lui, il ne peut pas promouvoir le tourisme. Donc il faudrait qu'on mette l'accent sur l'information sur notre pays, sur ce qui s'y passe, et éviter que les autres, pour leurs propres intérêts et pour leur humeur ou leur sous-information, nous classent tantôt en zone rouge ou en zone. Il y a des endroits qui sont aussi dangereux que nous. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun groupe terroriste nigérien. Ils sont soit maliens, soit libyens, soit nigériens. Il n'y a pas de base installée au Niger. C'est des excursions qui sont faites. Mais il y a la couleur qu'on donne au Niger est même supérieure à certains pays où il y a eu des attentats. Je vous dis qu'à Paris, il y a eu près de 52 personnes tuées durant ces dernières années en attentat. Mais on n'a pas mis Paris en zone rouge. Pourtant, le Niger, partout, c'est rouge. Donc c'est parce que nous avons laissé d'autres décider de l'information qui nous concerne.
Pour vous, donc, l'État doit beaucoup miser dans le cadre de la communication.
Le deuxième défi, c'est le défi sécuritaire. Le tourisme est incompatible avec la sécurité.
L'insécurité.
Le Niger, aujourd'hui, fait de grands efforts. Il fait des efforts énormes. Mais ce sont des efforts qui sont orientés vers la guerre. Or, il faut sécuriser les sites. Les plus rentables. C'est des sites qui nous rapportent de l'argent si nous savons les exploiter. Et il faut qu'il y ait, comme dans d'autres pays, un système de sécurité touristique. Il y a des pays où il y a une police exclusivement réservée au tourisme et qui sont formés pour ça. On ne va pas réinventer la roue. On va aller dans les pays où ça se fait. On s'inspire avec nos experts en sécurité, voir comment les sites les plus emblématiques, qu'on puisse les préserver. Aujourd'hui, l'insécurité à Diffa est cloîtré dans le pourtour du lac Tchad. Mais le désert du Tal est inaccessible. Or, on pouvait se sécuriser. Donc, voilà le deuxième défi. Le troisième défi, il est économique. Parce que aujourd'hui, du fait que nous ne maîtrisons pas notre information, les touristes extérieurs ne viennent pas au Niger. Parce qu'il leur est interdit de sortir de Niamey. Mais nous n'avons pas de moyens suffisants pour promouvoir le tourisme intérieur. Parce que le tourisme intérieur... Contrairement à ce qu'on dit, il existe. Mais
il faut expliquer
on ne fait rien.
Quoi,
le tourisme intérieur, c'est quoi? C'est le déplacement des Nigériens de leur zone de résidence pour un séjour de plus de 24 heures à moins de 4 mois dans un autre lieu. Et dans ce lieu-là, ils sont amenés à être transportés, ils sont amenés à être hébergés, ils sont amenés à se restaurer, ils sont amenés à acheter des choses.
Est-ce que c'est à cause de la pauvreté que les Nigériens ne font pas
le tourisme? C'est faux, les Nigériens se déplacent. On ne on n'a pas réussi à sortir ces déplacements de l'informel. Aujourd'hui, quand vous regardez au Niger, les compagnies de transport, il y en a près de 20. Et elles fonctionnent, il n'y a aucune qui est en faillite. Ça veut dire que le Nigérien voyage. Il séjourne ailleurs, il mange ailleurs, il dort ailleurs.
Pourquoi ça bloque alors?
C'est juste une prise de conscience. Nous avons toujours considéré le marché intérieur comme une politique à mettre en œuvre. On dit que quand tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut commencer par faire ce que tu n'as jamais fait. Au lieu de considérer le tourisme intérieur comme une politique à mettre en œuvre, il faut le considérer comme un marché à conquérir. Et ce marché-là, il faut l'étudier, le segmenter et le cibler, voir combien il peut nous amener. Et si on le conçoit de telle sorte, je vous assure que les opérateurs économiques, partout où ils ont un intérêt, ils vont investir et ils vont le récupérer. Mais nous, le rôle de l'État, ce n'est pas de faire du commerce. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour qu'un investisseur qui veut investir dans le secteur puisse rentabiliser ses investissements et s'en sortir. Voilà le rôle de l'État. Aménager les routes, créer la sécurité, mettre l'eau et l'électricité, dégager des zones d'intérêt touristique, les protéger, voilà le rôle de l'État. Mais les investissements et le commerce, ça l'apanage des privés. Et ça, c'est une politique qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas d'impossible. C'est la méthode d'approche qu'il faut changer. Voilà à peu près.
C'est compris le tourisme intérieur et les autres défis.
Les autres défis, c'est, je dirais, la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous expliquez le tourisme à un Nigérien, il comprend mal qu'un Nigérien puisse dépenser son argent et aller. Parce que l'approche que nous avons eue jusqu'à présent est une approche destinée à des Occidentaux et d'autres qui ont une culture différente de la nôtre. Dans les pays arabes, on est en train d'expérimenter de nouvelles méthodes. Ils sont la Mecque et plus l'Arabie Saoudite est quand même le berceau de l'islam. Mais l'Arabie Saoudite reçoit par an près de 18 millions de touristes. Le pèlerinage n'apporte que 5 millions. Ils reçoivent 18 millions de touristes par an. Pourquoi est-ce que nous, on va être beaucoup plus que ces messieurs-là, hein, et vouloir coûte que coûte combattre le tourisme? J'ai suivi récemment en Tunisie l'expérience de ce qu'on a appelé le tourisme halal. Le tourisme halal, quoi? C'est qu'ils ont identifié leur cible. C'est qui qu'on peut avoir dans le marché intérieur, puisqu'ils l'ont conçu comme un marché. Et ce marché-là, comment est-ce qu'ils l'ont segmenté? Ils l'ont segmenté vers les jeunes générations qui sont attachés à la technologie et au réseau connecté. Ils ont augmenté aussi au niveau des familles. Les familles, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est des sorties ensemble. Je vous assure qu'on a interdit la pilule. Mais si on l'avait réorienté avec un opérateur privé pour le destiner à des familles, réaménager, pour l'adapter à des familles. Nous, les préceptes de l'islam, dans tous les pays d'Arabe où il y a du tourisme, les préceptes de l'islam sont respectés. Moi, je connais, j'ai étudié à Marrakech, la mosquée de la Koutoubia. Qui que tu sois, si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas dedans. Alors que nous avons vu dans nos mosquées, souvent, on laisse des gens rentrer. Et les femmes, dans certains hôtels, les piscines des femmes sont à part, les piscines des femmes, des hommes sont à part. Donc ça, c'est un segment de clientèle que nous pouvons segmenter. Il y a les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, on ne peut pas interdire aux jeunes d'avoir du loisir. Mais il faut canaliser le loisir.
Selon vous, les rives du fleuve Niger,
les rives du fleuve Niger
peuvent être aménagées et faire rentrer des devises.
En fait, il faut créer des responsabilités. Une rive qui n'appartient à personne, que tout le monde peut utiliser à sa guise, un peu amener toutes les dérives. Mais une rive concédée à un opérateur économique pour créer un écologe, un parc qui lie la nature et le tourisme, il a la responsabilité de surveiller certaines dérives. Aujourd'hui, qui fait que la pilule est devenue dangereuse? C'est des pratiques malsaines. Mais en plus de ça, c'est cette course de voitures que les jeunes font.
Les drifts.
Mais pourquoi ne pas autoriser un opérateur spécialisé dans le domaine à créer un parc à drift à quelques kilomètres de Niamey? Celui qui veut, tu payes. Il y a des moniteurs formés qui vont te montrer comment et les mesures de sécurité. Mais interdire à la jeunesse d'avoir du loisir, c'est les amener à la clandestinité, à la dérive et au mauvais comportement. Voilà mon approche de la chose.
Anafi Souleymane, quels sont les sites touristiques les plus importants au Niger?
D'abord, au Niger, nous avons classé le Niger en zone touristique.
Le Niger, tout le pays en entier?
Tout le pays en entier en plusieurs zones touristiques. Il y a la zone de l'Aïr et du Ténéré, qui a été parmi les premières, la plus grande destination pendant longtemps, jusqu'à ce que l'insécurité vienne mettre du bémol. Il y a la zone du fleuve. La zone du fleuve, c'est tout le passage du fleuve dans la partie nigérienne. C'est Tillabéri,
Niamey,
Niamey et Dosso. Il y a plusieurs parcs naturels. On peut faire beaucoup d'écotourisme. Il y a la zone du centre, qui est vers Maradi, Zender, où on fait de l'écotourisme et du tourisme social solidaire.
Ça veut dire quoi tout ça?
Le tourisme social solidaire, c'est un tourisme qui prend en compte les intérêts des populations et à travers le tourisme, on propose des micro-projets pour aider les communautés. Et ça, c'est important à faire parce qu'aujourd'hui, le tourisme, comme disait mon collègue, il est transversal. Nous vendons des patrimoines culturels, nous vendons des patrimoines naturels et nous vendons aussi de l'hébergement et du transport. Comment voulez-vous que quelqu'un protège un hippopotame qui ne lui apporte rien et qui mange ses champs? C'est de créer autour de cet hippopotame-là un micro-projet pour ceux qui viennent, qui sera financé par ceux qui viendront le voir et qui va profiter directement aux populations pour les soins de santé, pour améliorer leur école et pour valoriser leur culture. Comment voulez-vous que quelqu'un protège un site touristique qui ne lui apporte rien? Ils vont prendre, j'ai vu à Garoumélé, la capitale de l'Empire Kanem-Bornou, où les briques ont même été emportées. C'est aujourd'hui qu'on essaie de le protéger. Mais si c'est autour de ce site, on avait créé un événement qui profiterait aux populations, elles allaient le protéger. C'est ça qui a fait le succès du parc des girafes. Il y a ensuite la zone de l'Est. La zone de l'Est, avant l'insécurité, il y avait d'abord le circuit de Pour du lac Tchad et il y avait le désert du Tal, le célèbre désert du Tal, même si qui n'a pas été aménagé, mais qui était un des rares en Afrique et que les gens voulaient le voir. Voilà les zones touristiques. Maintenant, parmi les sites, nous avons les sites naturels, qui est la réserve du parc du W, et d'autres que celle de Gadebeji qu'on est en train de réactiver, et la réserve nationale de l'Aïr et du Ténéré, qui est une zone protégée et qui vient de faire l'objet d'une mise en gérance par une ONG qui va essayer de voir comment est-ce qu'elle peut permettre aux espèces qui sont en voie de disparition de se régénérer. Voilà, maintenant il y a beaucoup de sites culturels. Dans chaque commune, vous allez trouver un site d'importance culturelle. Malheureusement, ces sites-là, jusqu'à présent, ils restent à les médiatiser.
En effet, Souleymane, est-ce que les sites Ramsar peuvent être considérés comme des sites touristiques, là où il y a les oiseaux migrateurs?
Oui, c'est ce que j'appelle les sites naturels. Mais vous savez, nous, on les vend comme destination. Mais ils sont gérés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Et comment se fait la gestion?
La gestion, nous sommes associés.
Et le tourisme.
Nous prenons les aspects de gestion touristique. Même si ce ministère a d'excellents spécialistes, je les ai vus. Et parce que les agents des eaux et forêts sont aussi formés en tourisme. Et nous collaborons étroitement avec eux. Et il y a une synergie et un partage d'informations avec eux. Et ces sites-là, ils font l'objet de protection au niveau du ministère de l'Environnement et de la mise en vente à l'étranger par le ministère qui les met sur ces sites et les chancelleries pour que ce soit une destination qui attire des clients.
Anafi Souleymane, depuis quelques années, le Niger est classé zone rouge, vous l'avez rappelé. Et qu'est-ce que cela veut dire, les conséquences pour le tourisme au Niger?
Cela veut dire que c'est une zone où déjà au départ du touriste en Europe ou en Asie, on lui déconseille de visiter ces zones-là. Donc nous, nos clients, c'est quoi? Ce sont les touristes qui vont voir sur notre site et dans nos ambassades les potentialités touristiques que nous avons et qui vont acheter auprès d'un opérateur la destination. Or, quand une zone est classée zone rouge, l'opérateur qui se hasarde à amener un touriste dans cette zone, si le touriste est pris en otage ou tué, l'opérateur est sanctionné sévèrement et la chancellerie dégage sa responsabilité puisqu'on l'aura prévenu. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'information n'est pas maîtrisée. Ces deux aspects-là, la maîtrise de l'information et la maîtrise de la sécurité, nous devons les travailler. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand vous allez, vous êtes un Asiatique, vous voulez venir au Niger, le meilleur site, le plus renseigné, c'est le site de l'ambassade de France, du Quai d'Orsay. Et le site du Quai d'Orsay a bariolé le Niger en zone. Donc le Japonais ou l'autre ne va pas venir. Et nos opérateurs de tourisme ne diversifient pas. Parce qu'un Américain peut aller à Corée. Vous pouvez l'amener à Corée. Il va visiter les girafes, ce n'est pas, son ambassade ne va pas lui interdire. Mais un Français, vous ne pouvez pas l'amener à Corée. C'est déjà zone rouge. Parce que nous ne maîtrisons pas.
Donc vous pensez que le gouvernement nigérien peut faire quelque chose
à ce niveau? Il peut faire quelque chose d'abord en réfléchissant au site qui rapporte le plus de mettre la sécurité. Quitte à ce que les recettes générées par les visites de touristes à ces sites-là soient partagées entre la sécurité et les autres charges. Ensuite, donner la bonne information, l'information de notre source. Il y a des opérateurs qu'on peut faire venir, des journalistes qu'on peut faire venir, leur faire visiter, et ils vont écrire et parler à mieux du Niger. J'ai dit qu'il n'y a pas un groupe terroriste labellisé nigérien. Boko Haram est né au Nigeria, Ansar Dine est au Nigeria, Moujaou, il n'y en a aucun. Même s'il peut y avoir quelques Nigériens, quelques incursions à l'intérieur, ils ne sont pas du Niger. Donc on peut toujours prévaloir que nous ne sommes pas à la base de l'insécurité et mettre une stratégie pour que les sites touristiques soient protégés. Nous avons déjà imposé au niveau des hôtels, ça c'est le ministère qui l'a imposé, qu'il y ait des policiers armés à la porte, surveillés, pour protéger ces sites-là. Depuis que vous avez vu, au Burkina, c'est un hôtel qui a été attaqué, au Mali, c'est un hôtel, à Grand Bassam, c'est un hôtel. Au Niger, on n'en a pas. Parce que nous avons pris très tôt les mesures pour que chaque hôtelier puisse placer un policier armé, des policiers armés à l'entrée, qui vérifie votre véhicule, vérifie votre identité et vous rentrez.
Anafi Souleymane, vous avez rappelé le dynamisme de la population d'Agadez qui a favorisé la création de nouveaux projets, dont la proposition de classement de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cela a-t-il servi à grand chose?
Oui, il a servi, parce que c'est quoi faire classer une ville? Faire classer une ville, c'est en faire une destination par excellence et produire le maximum d'informations sur l'intérêt culturel de cette ville-là qui peut attirer des clients. Aujourd'hui, la zone d'Agadez, il n'y a pas de terrorisme. Il y a une autre forme d'insécurité que l'État peut combattre, c'est les trafics de tout genre. C'est vrai, le désert est vaste, mais le classement de la ville d'Agadez est un atout. Les pays se battent pour qu'il y ait le maximum de villes et de sites classés UNESCO. Parce que automatiquement, ça les met sur les sites de toutes les compagnies internationales et vous avez toutes les informations. Pourquoi Bandiagara est plus importante que Terra ou ailleurs?
Bandiagara,
c'est au Mali, parce que Bandiagara, il y a beaucoup d'écrits. Or, nos sites-là, même si nous avons écrit, nous n'avons pas publié. Je sais que la direction du patrimoine...
Il y a aussi les gravures rupestres.
Oui, les gravures rupestres. C'est les autres qui ont écrit. Mais nous, sur nos sites, on ne met pas de petites histoires pour raconter le site. Parce que pour que moi, j'ai envie de visiter un site, il faut qu'il représente quelque chose.
Mais Anafi Souleymane, c'est votre travail, ça?
Oui, c'est notre travail. Mais vous savez, moi, à l'université, on m'a appris à me fixer des objectifs, à imaginer une stratégie opérationnelle et à rechercher les moyens de les atteindre. Nous avons les objectifs. Nous avons la stratégie pour les atteindre. Mais les moyens ne suivent pas. Oui,
les moyens
c'est
font défaut.
Les moyens font défaut. Peut-être que ce n'est pas à moi de le dire. Mais quand vous regardez, je vous laisse comparer les budgets des ministères.
Voilà. L'activité touristique, c'est non seulement la clientèle, c'est-à-dire les voyageurs qui sont des Blancs, puis les agences touristiques, les hôtels, les artisans, les populations et les sites cibles. Elle est conditionnée par ces éléments dont le plus important est la sécurité des touristes. S'y ajoutent les infrastructures d'accueil, la sécurité de la zone et l'hospitalité des populations, la variété des surprises culturelles, mais aussi celle de la nature. La publicité dont vous avez fait mention et l'efficacité du service, mais aussi la satisfaction des touristes, la publicité à l'extérieur, l'organisation des grandes festivités d'envergure culturelle, festivals par exemple, des expositions et des foires. Soumaïla Marsadou, que faire pour restaurer le tourisme dans notre pays?
J'ai suivi avec brio mon cher collègue Anafis Lemet. Tout à l'heure, je vous parlais de la politique nationale en matière de tourisme. Cette politique a été adoptée tout récemment et plusieurs axes ont été identifiés. Comme nous sommes passés par une période difficile, maintenant nous sommes en train de vouloir adopter une stratégie de sortie de crise. Et cette stratégie de sortie de crise passe par la communication, comme l'a dit tantôt mon collègue Anafi. Et dans ce cadre, nous envisageons en tout cas de faire la promotion du secteur au niveau des marchés émetteurs. Des marchés émetteurs, notamment en Europe. Chaque année, le Niger participe au FITUR, le salon de tourisme de Madrid. Et nous participons aussi à certains salons africains, tels que le CITO au Burkina Faso. Nous participons également à des foires, comme vous l'avez dit tantôt. Maintenant, au niveau interne, parce que vous allez parler, votre thème, c'est en fait le tourisme interne. Le tourisme interne englobe le tourisme intérieur et le tourisme émetteur. C'est-à-dire, le tourisme intérieur, j'ai dit, ça englobe le tourisme interne. Le tourisme interne, c'est le déplacement par exemple, si tu prends le Niger, le déplacement des Nigériens à l'intérieur de leur pays et des résidents non-nigériens à l'intérieur du Niger. C'est ça le tourisme interne. Le tourisme intérieur, ça englobe non seulement le tourisme interne, le tourisme émetteur, c'est-à-dire les touristes qui viennent d'ailleurs au Niger. Donc, pour ceux qui concernent le tourisme interne, nous sommes en train de vouloir faire intéresser nos compatriotes à découvrir leur pays. Parce que ça nous manque beaucoup. Le Nigérien n'a pas la culture du voyage touristique. On n'a pas la culture, on voyage, c'est vrai, mais on n'a pas la culture du voyage touristique à l'intérieur de notre pays. Eh bien, c'est à cela, à cette niche-là que nous, on va s'attaquer. Comme l'autre, il y a des problèmes. Maintenant, il faudrait que nous-mêmes, nous cherchions à découvrir notre pays, notamment à travers des excursions. Par exemple, vous prenez le parc du Dibulbe, c'est pas loin de Niamey, c'est 151 km. On peut faire des voyages organisés pour les Nigériens qui sont intéressés. Il y a les colonies des vacances, avant on les faisait avec l'Office national du tourisme. Il y a les camps de vacances, etc., etc., pour que les Nigériens découvrent le Niger. Je pense que c'est très important. Il y a l'agence Temet Événements qui a lancé un produit pour découvrir Agadez et le désert d'Agadez. Donc les Nigériens qui sont intéressés peuvent s'inscrire avec Temet Événements. C'est une agence de voyage nigérienne.
Soumaïla Marsadou, comment faire pour que ces sites touristiques soient accessibles aux Nigériens?
L'accessibilité, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que tous les sites-là que vous voyez, tous ces sites-là sont accessibles. Et les Nigériens ne sont pas des cibles pour les gens qu'on craint là. Donc, les sites-là sont accessibles pour les Nigériens. Moyennant, bien sûr, aux agents de voyage de revoir à la baisse leurs cotations. Parce que, vous savez, la bourse des Nigériens n'est pas très élevé, nous n'avons pas de salaire élevé. Donc maintenant, c'est aux agents de voyage d'adapter leur forfait aux moyens des Nigériens pour pouvoir faire les voyages, les déplacements.
Soumaïla Marsadou, qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau?
Nous représentons l'État. C'est le volet communication, comme l'a dit tantôt. Il faudrait que nous fassions beaucoup de communication et de promotion pour d'abord faire connaître aux Nigériens ce que nous avons comme ressources naturelles. Tantôt il l'a dit, nous avons beaucoup de sites au Niger, il faudrait qu'on fasse découvrir ça au Niger. Maintenant, de mettre aussi pour un début à la disposition des Nigériens moyens, par exemple des bus qu'on peut proposer avec des coûts moins élevés pour que les Nigériens puissent faire les circuits tout autour de, par exemple, la ville de Niamey.
Soumaïla Marsadou, le nord du Niger regorge des potentialités touristiques, vous l'avez rappelé, telles que les ruines de Gado et d'Assoudé, les oasis, les anciennes villes comme Agadez, le Ténéré. Comment faire pour que cette partie du Niger devienne fréquentable?
Vous savez, le nord du Niger, c'est la région phare en matière de tourisme. Il y a toutes les potentialités là-bas. Vous avez des sites naturels, vous avez des sites historiques, des sites paléontologiques. Nous avons des squelettes de dinosaures là-bas. Il y a la ville d'Agadez qui a été classée au patrimoine mondial. Il y a eu beaucoup d'investissements actuellement dans cette ville-là. Maintenant, par rapport à la découverte de la ville d'Agadez, vous savez, nous serons obligés pour un devis, non seulement pour, c'est valable pour la région d'Agadez, mais au Niger tout entier, de nous orienter pour un début vers le tourisme événementiel. Le tourisme événementiel, c'est quoi? C'est à l'exemple du festival de l'Aïr à Agadez. Ça se déroule chaque année pendant le mois de février à Iférouane. Donc, nous invitons les Nigériens à découvrir ce que c'est que le festival de l'Aïr. Et il y a des agents de voyage au niveau d'Agadez qui sont en négociation avec des tours opérateurs européens, notamment avec Point Afrique, pour que Point Afrique fasse des charters au départ de la France. Il y a 2 ans de cela, il y avait eu des charters pour le festival. Cette année aussi, nous sommes en négociation avec Point Afrique pour voir la possibilité de charters entre la France et le Niger pour découvrir le festival de l'Aïr. Agadez a beaucoup de merveilles. Vous prenez Timiya, c'est notre Venise. La Venise du Niger, c'est Timiya. Il y a beaucoup de choses là-bas à découvrir. Donc, pour les Nigériens moyens, c'est l'occasion vraiment de se préparer, de se mettre en contact avec le ministère du Tourisme pour ceux qui le souhaitent. Nous allons faire des voyages organisés pour qu'ils découvrent cette région-là.
Soumaïla Marsadou, est-ce que la rébellion de 2007 n'a pas porté un coup dur au tourisme, surtout dans cette partie nord du Niger?
C'est vrai, la rébellion dont vous faites allusion, ça a porté un coup très dur parce que en 2006, je vous disais, que Agadez était vraiment à son pic. L'année 2006, par exemple, je vous ai dit, il y a à peu près 8 milliards que le tourisme, l'impact du tourisme pour la région d'Agadez tournait autour de 8 milliards en 2006. Après, il y avait eu la rébellion du MNJ. Mais après cette rébellion même, il y avait eu une relance parce qu'en 2010, nous étions arrivés à relancer le festival de l'Aïr à Agarousse, dans le département de Kirozirine. Ça l'a impacté, mais il y avait eu un début de relance. Oui, c'était à cette histoire des enlèvements à dites, au niveau de la Somalie et autres, là. On serait loin actuellement.
Anafi Souleymane, comment faire pour valoriser les déserts du Tal dont vous avez tantôt parlé et de termites et faciliter l'accès et les excursions au parc W?
Merci. Valoriser un monument ou un site ou une destination touristique, c'est d'abord écrire sur la destination. Il faut que ceux qui savent les histoires autour de ces sites puissent les restituer et qu'on le fasse. Le deux, il ne s'agit pas de valoriser un site. Il s'agit, en plus de la valorisation, de faire rentabiliser le site. Aujourd'hui, le désert d'Ital, vous y allez, vous bivouaquez. Il n'y a aucune infrastructure d'accueil digne de son nom.
Pourquoi?
Parce que c'est un désert, il est un peu isolé des agglomérations. Mais pour qu'il soit viabilisé, le touriste, quand il vient, nous, ce qui nous intéresse, c'est le touriste, c'est qu'il dépense de l'argent pour se faire transporter. Il dépense de l'argent pour se faire héberger. Il dépense de l'argent pour manger. Il dépense de l'argent pour acheter des souvenirs.
Est-ce que ce n'est pas au gouvernement, notamment le ministère du Tourisme, de consentir des gros efforts à ce niveau?
Ce n'est pas au gouvernement ni au ministère. Le ministère, son rôle, c'est de le rendre accessible, de le rendre sécurisé et de le faire sa promotion à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est le rôle du ministère et des institutions. Par contre, il appartient au privé de créer des structures de
risquer,
captation.
De risquer.
Oui. Bon, ce n'est pas de risquer. J'ai dit que l'État a le devoir d'assurer la sécurité. Maintenant, si nous vendons la destination, il faudrait que les opérateurs économiques privés soient prêts pour capitaliser ces visites-là. C'est ça l'avantage d'un touriste. Un touriste qui vient dans une localité donnée impacte toute la population. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du tourisme. Souvent, ce sont même des devises. Le tourisme, vous regardez quand le tourisme marchait, vous avez des francs français et des dollars qui circulaient. Donc c'est ça, le rôle de l'État doit être distinct de celui des privés. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que les privés rentabilise son investissement. Maintenant, pour le parc, il y a déjà un hôtel, il y a déjà des brigades qui le surveillent. Mais ces derniers temps, avec les incursions dans les pays voisins, il est déconseillé pour un étranger d'aller là-bas. Mais pour les Nigériens, on peut cibler. Les cibles-là, elles peuvent être plusieurs. Il y a beaucoup de sociétés qui emploient des gens et qui leur offrent des congés, qui peuvent en faire des voyages organisés dans le parc. Il y a des sociétés qui ont les enfants de leurs employés qu'ils envoient en colonie de vacances. Pourquoi ne pas les inciter à leur faire découvrir le pays dans lequel ils sont? Il y a aussi des personnes qui, avec leur famille et leurs enfants, ont envie le week-end de s'échapper du Niamey pour aller quelque part. Il faut les créer les conditions, qu'il y ait une navette qui peut les assurer qu'ils vont. Parce que le problème, c'est, vous avez parlé tout à l'heure d'accessibilité. L'accessibilité, c'est non seulement les voies d'accès physique, mais aussi le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Parce que nous construisons des infrastructures. Mais nous les construisons, j'ai l'impression, souvent pour les étrangers. Quand vous dites à un Nigérien, il va à l'Atapoa, il va payer 30 000, il ne va pas aller avec sa femme et ses enfants. Peut-être il va aller avec lui tout seul. Or, il faut adapter les infrastructures. Et quand on crée un produit, on le crée en fonction d'une cible commerciale. Et cette cible commerciale, dans la fabrication du produit, on tient compte de son pouvoir d'achat. Son pouvoir d'achat, la position stratégique d'un produit, elle dépend de plusieurs facteurs, dont un des facteurs est le pouvoir d'achat du client. On fabrique un produit accessible. Un Nigérien ne va pas aller dans un hôtel 5 étoiles, mais il va aller dans un campement, un bivouac, un bungalow, parce qu'il peut amener toute sa famille. Mais si vous le demandez cher, il n'y aura pas beaucoup de Nigériens. Le bénéfice dont vous parlez, vous le tirez sur l'échelle. Si vous faites votre hébergement à 10 000 francs et que vous avez 200 clients par semaine ou par mois, et vous le faites à 30 000, vous avez 3 clients ou 5 clients par semaine, ce n'est pas la même chose. Donc il faut inciter la clientèle à y aller. Il y a toute une ingénierie à mettre en place. Moi, j'ai une approche systémique. Pour promouvoir le tourisme intérieur, il faut étudier le pouvoir d'achat des différentes clientèles et créer des infrastructures d'accueil adaptées à ces clientèles-là. Nous les aurons. Les Nigériens voyagent beaucoup. Je vous ai dit de Rimbo à Azawad. Il y a tellement de compagnies et elles fonctionnent. Ça veut dire que les Nigériens voyagent.
Hanafi Souleymane, le tourisme promeut l'échange culturel, la communication entre les peuples et attire des donateurs, les ONG, les associations. Quel est le rôle de la population, surtout celle des zones touristiques, pour la promotion du tourisme?
Pourquoi aujourd'hui nous parlons de tourisme durable? Le tourisme durable, il n'est pas fait pour Niamey, il est fait pour les zones rurales. Parce que il doit prendre en compte l'intérêt du territoire dans lequel se rend le tourisme et l'intérêt des populations. Préserver les intérêts économiques des populations, préserver la nature, préserver la morale et la culture. Et c'est pour ça que le tourisme nous donne un avantage comparatif par rapport à nos cultures. Nos cultures-là, elles sont uniques et elles attirent des touristes. Mais quand un touriste vient pour voir un monument culturel ou historique, il faudrait que l'arrivée de ce touriste-là profite à la commune dans laquelle se trouve ce monument-là. Il profite à la population et qu'il soit solidaire de ces populations-là pour les aider à résoudre un problème, soit social, soit de santé, soit culturel, soit autre. Et c'est pour ça que le tourisme est un bon vecteur de développement des communes. Aujourd'hui, si les communes savaient, toutes les communes allaient recenser les sites touristiques dans leur zone et nous les fournir pour qu'on puisse les viabiliser, les médiatiser. Parce que le tourisme, aujourd'hui, les touristes veulent aller chez l'habitant. Il y a le tourisme chez l'habitant. Il y en a qui veulent dormir. Mais bien sûr, le préalable, c'est la sécurité dans la zone donnée. Aujourd'hui, la seule zone sécurisée, c'est Niamey. Et Niamey, Dieu merci, depuis quelques années, Niamey est en train de devenir un pôle de développement d'événements. C'est-à-dire aujourd'hui, après les investissements hôteliers et autres infrastructures qui ont été faites, Niamey peut concurrencer n'importe quelle capitale pour venir tenir une conférence internationale et faire profiter les agglomérations environnantes.
Hanafi Souleymane, pourquoi l'édition 2018 du FIMA ne s'est pas tenue ici à Niamey?
Bon, elle ne s'est pas tenue, peut-être c'est un choix. Je ne connais pas les choix qui président. C'est peut-être un choix du promoteur qui veut en faire un événement international. Peut-être aussi que l'État, parce que c'est un événement promu par un privé, l'État ne peut pas toujours continuer à injecter dedans. Quand vous injectez de l'argent, il vous faut un retour. Le retour que nous avons avec le FIMA, c'est la publicité qui est faite au Niger. C'est la publicité qui est faite. Je ne connais pas les motivations qui ont incité à exploiter l'événement, mais Niamey aurait très bien pu l'abriter, Agadez aurait très bien pu l'abriter.
Soumaïla Marsadou, quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du secteur du tourisme pour qu'ils contribuent significativement à la création de richesses et au développement socio-économique du Niger? Vos propositions rapidement.
Je voudrais entre-temps dire que par rapport à la région de Diffa, qui a en gestation un projet de l'Organisation mondiale du tourisme transfrontalier financé par la coopération japonaise, qui va intéresser la région de Diffa pour le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Maintenant, ce que je donne aux acteurs du tourisme et ceux qui ne sont pas acteurs à nos commerçants, c'est de s'investir dans le secteur du tourisme. C'est un secteur porteur. Vous avez vu comment la ville de Niamey est en train de s'agrandir avec les événements à venir comme le sommet de l'Union africaine. Nous devrons rentabiliser ces investissements-là. Et ces investissements-là, il faut tendre vers le tourisme événementiel, c'est-à-dire la tenue des congrès et des réunions pour nos différents ministres doivent se battre pour attirer les réunions-là vers notre capitale Niamey, des réunions internationales. Les acteurs du tourisme, les professionnels du tourisme, notamment d'adopter les normes hôtelières au niveau de leur structure pour que vraiment il y ait de la commodité par rapport aux catégories. Il faudrait que ça soit conforme comme pour les normes internationales. Maintenant, au ministère du tourisme, de participer beaucoup plus aux événements de tourisme à l'extérieur, notamment les différents salons qui s'organisent chaque année. Il faudrait que nous puissions chaque année avoir un stand pour vendre la bonne image de notre pays.
Anafi Souleymane, quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du secteur du tourisme pour qu'ils contribuent significativement à la création de richesses et au développement socio-économique du Niger?
Je vais commencer d'abord par les collectivités territoriales. Il faudrait qu'elles sachent qu'elles ont des budgets dans lesquels elles ont toujours inscrit le tourisme. Mais la seule chose qui puisse leur permettre de profiter de ce tourisme-là, c'est que la commune dégage un fonds pour recenser tous les sites d'intérêt touristique, d'écrire là-dessus et de les transmettre à la direction régionale concernée. Deux, les opérateurs économiques ne doivent pas se braquer seulement sur les touristes étrangers. Les Nigériens voyagent d'ici à Diffa. J'ai fait l'intérieur du pays. Je voyage beaucoup, mais il n'y a pas de réceptif. Quand vous prenez Rimbo, vous allez de Diffa, vous dormez à Koni, vous êtes obligé de trouver une vieille natte pour dormir. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de faire un réceptif pour les voyageurs? Qu'est-ce qui empêcherait à quelqu'un de faire un bon restaurant pour permettre à ces gens qui sont fatigués de manger proprement? On capte les ressources. Il faut qu'ils adaptent aussi leurs offres de produits aux Nigériens. À l'État de ne pas négliger la sécurité des sites touristiques. Il est en train de faire des efforts à Niamey pour faire de grands investissements. Et ces investissements ne peuvent être rentabilisés que par le tourisme événementiel. C'est de créer à Niamey des événements permanents. Tout à l'heure, mon collègue vous a parlé du futur. Le futur, c'est en Espagne. C'est sur 4 jours. Et dans la ville où il se tient, ce futur-là, pour 4 jours, il met 170 milliards dans la ville. C'est vous dire que ça marche. Mais Niamey, on a fait des échangeurs, on a fait des immeubles, on a 85 hôtels, dont presque 7 de 5 étoiles. Comment les rentabiliser? C'est en continuant à être candidat à toutes les conférences et en créant de grands événements à Niamey. Le FIMA prochainement, on luttera pour que ça soit à Niamey.
Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Anafi Souleymane, ancien parlementaire, cadre supérieur du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. En ligne, nous avons eu Soumaïla Marsadou, directeur régional du tourisme de la région de Tillabéri. Je rappelle que nous avions également invité Maouli Dayak, promoteur de Temet événement, mais ce dernier n'a pas pu répondre présent à notre invitation. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.